grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui le général Jean Bayo qui quitte la mission de l'ONU en RDC après 3 ans de service en tant que numéro 2 de la composante militaire. Général Jean Bayo, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission et bienvenue dans le studio de Radio Capi. Vous allez bien ?
Ça va bien, merci.
Alors qu'est-ce que ça vous fait de quitter la RDC 3 ans après ?
Écoutez, je pars lundi, après 3 ans de mission dans votre merveilleux pays, donc ça, ce sont bien sûr des sentiments partagés, mais quand même très forts, effectivement, au moment de quitter cette mission.
Les Congolais vous connaissent comme étant le commandant adjoint de la force de la MONUSCO. Vous avez travaillé dans l'est de la RDC. On sait que cette partie est confrontée à un problème d'insécurité avec les groupes armés. On va en parler dans cette émission. On va dresser le bilan de votre mandat. Mais avant cela, les gens ont envie d'en savoir un peu plus sur votre personne. Vous êtes née en France.
Je suis française, je suis un général français, j'ai fait une carrière militaire qui m'a conduit dans beaucoup de pays, d'abord dans le maintien de la paix, d'ailleurs au Proche-Orient, j'ai fait 4 missions au Liban, dans les Balkans, aussi à l'autre bout du monde dans le Pacifique, parce qu'on avait des problèmes sur un des territoires français en Nouvelle-Calédonie, il y a pas mal de temps. Mais depuis quelques années, je me concentre beaucoup sur les questions africaines. J'ai servi 7 ans à New York auprès d'ambassadeurs français, auprès du Conseil de sécurité, puis au département des opérations de maintien de la paix, ce qui m'a conduit...
Et c'est de là que vous êtes rejoint à
l'RDC. Absolument, c'est ça. C'est là que je suis venu ici, effectivement.
En 2005, d'abord.
Je suis venu d'abord avec l'ambassadeur français et les ambassadeurs du Conseil de sécurité à 2 reprises, en 2005 et 2006, donc avant les élections. J'accompagnais cette délégation à Kinshasa, mais aussi dans différentes provinces et dans les pays de la région, parce que la dimension régionale, bien sûr, est très importante.
C'était pour des courtes missions ?
C'était des courtes missions qui étaient d'abord politiques, c'était des rencontres avec les présidents effectivement de la RDC et d'autres pays, mais je l'accompagnais aussi de visites militaires puisque je suis un militaire et je me suis aussi déplacé déjà à Bunia ou à Goma ou dans d'autres régions à cette époque.
Alors lorsque vous avez été nommé, on vous a proposé ce poste de commandant adjoint de la force de la MONUSCO en RDC, c'était quoi votre sentiment ? Est-ce que vous connaissiez déjà bien le pays ?
Bon, ce sont des courtes visites qui m'avaient permis de venir d'abord, effectivement, comme vous le disiez, aux alentours de 2005, il y a plus de 10 ans, mais aussi en 2010, j'avais fait une tournée alors que j'étais à New York. J'étais allé en particulier dans l'ancienne province de l'Équateur, Guémena, Bandaka, où il y avait pas mal de troubles. J'étais allé aussi au Katanga aussi à l'époque, mais, et dans l'est du pays. Donc j'avais déjà une certaine connaissance et des contacts déjà avec un certain nombre d'interlocuteurs. Mais ce qui est important, c'est le travail que j'ai fait à New York comme adjoint du général Guy, qui est bien connu des Congolais, qui a été 5 ans commandant de la force de la MONUC et qui était mon chef pendant 3 ans à New York. Et nous travaillons en particulier sur la création de la brigade d'intervention. Donc c'est en tant que son adjoint que nous avons généré cette force d'intervention qui est intervenue sous le commandement du général Santos Cruz, j'étais l'adjoint, à Goma à l'été 2013.
Alors vous arrivez en 2013 en RDC, on vous envoie directement à l'est du pays ?
En fait, ce sont souvent les événements qui commandent nos actes, mais je suis bien sûr venu à Kinshasa. J'avais eu l'occasion de faire une dernière visite de pré-déploiement au mois de mai. J'avais rencontré les autorités militaires du pays à l'époque où Goma était sous la menace imminente d'une nouvelle offensive du M23. Et donc, mentalement, j'étais vraiment très prêt au travail que nous aurions à faire. Mais ce sont les bombardements du M23 sur la population de Goma qui nous ont obligés à nous rendre directement à Goma et à faire un travail de coopération avec les FRDC qui a porté rapidement ses fruits.
Comment étaient vos relations avec les FRDC et les autorités militaires congolaises ?
Donc, elles étaient facilitées par les contacts préalables que nous avions construits les années précédentes, mais après, elles se sont faites sur le terrain, je vais dire dans les tranchées. C'est vraiment la réalité, c'est-à-dire qu'au nord de Goma, il y a un ancien cratère qui était c'était en fait la proximité de la ligne de front, et c'est là où nous avons coordonné nos opérations. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette région, en fait, on est à côté de la frontière du Rwanda. On est également près d'un volcan qui s'appelle le Nyiragongo. Et entre les deux, le M23 a été embusqué et tiré sur la ville de Goma. Et nous avions un impératif qui était de faire cesser ces victimes civiles et donc de neutraliser l'artillerie du M23. Ça a été le travail que nous avons fait et nous l'avons coordonné ensemble dans la tranchée.
Pardon ? Grâce à la brigade d'intervention.
Alors, la brigade d'intervention, absolument. Ça, je tiens vraiment à le dire, parce que nos forces étaient imbriquées avec celles des forces congolaises. Les Tanzaniens étaient vraiment sur la ligne de front. Ils ont eu d'ailleurs un major qui était tué par les tirs directs du M23. Et nous avons eu d'autres pertes sur la deuxième ligne de front, là où également les Sud-Africains étaient déployés. Et l'artillerie tanzanienne a opéré aux côtés des FRDC et a fait des feux intenses contre les M23 qui étaient complétés par l'action de nos hélicoptères, des hélicoptères ukrainiens qui appuyaient également ces actions de manière coordonnée.
La force de la MONUSCO est quand même assez critiquée par la population, surtout dans les zones où l'insécurité règne, je dirais Nord Kivu, Sud Kivu, mais beaucoup plus dans le Grand Nord. On a la présence de la MONUSCO dans ces endroits, mais la population est toujours massacrée. Les groupes armés continuent de semer la terreur dans ces zones. Comment vous expliquez ça?
Alors, moi, je veux répondre à votre question, mais au préalable, je veux dire quand même deux choses qui me paraissent très importantes par rapport à la situation que vous décrivez. La première chose, c'est que j'ai été dans la région de Beni un nombre incalculable de fois. J'ai été auprès des victimes, j'ai été sur le lieu des massacres, où malheureusement j'ai pu partager la souffrance des gens. J'ai été vraiment partout. Ça, c'est le premier point, donc c'est un point de compassion et de partage effectivement de la souffrance de ces populations. La deuxième, c'est que j'ai été aussi partout avec les FRDC dans leurs actions offensives. J'étais le témoin aux côtés du général Bahouma, qui m'a amené à pied pratiquement au lendemain de la conquête de Médina. Nous sommes allés là-bas, nous avons dormi là-bas. Donc je sais aussi le sacrifice fait par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc ces points-là, la souffrance des populations, mais aussi le sacrifice des forces armées, sont des points qu'il faut vraiment évoquer d'abord. Pour vous dire, pour répondre à votre question par rapport à le sentiment d'inefficacité, je partage bien sûr l'attente et le désagrément, effectivement, de gens qui, depuis maintenant plus de 2 ans, vivent sous cette menace permanente d'un groupe qu'il faut absolument éradiquer.
Mais, d'un groupe ou de plusieurs groupes?
C'est clairement un groupe qui s'appelle ADF et d'autres groupes qui tournent autour et qui ont peut-être des intérêts communs ou de gens qui profitent, effectivement, de l'existence de ce groupe tout à fait particulier parce qu'il est secret. C'est le seul groupe à ma connaissance en Afrique, comparé à Al-Shabaab, à Acme ou à Boko Haram, qui ne communique pas. On ne peut pas dire « je vais parler avec un de leurs chefs ». Ils ne font pas de revendications, ils n'expriment pas d'objectifs politiques, mais ils veulent rester là et ils veulent dominer effectivement cette zone dans laquelle ils sont bien camouflés, dans laquelle ils connaissent bien le terrain. Et malheureusement, je pense qu'il y a des choses qui gravitent autour et qui profitent effectivement de cette réalité au détriment des populations et du développement économique de toute cette région qui est d'une richesse potentielle prodigieuse et qui a vraiment un avenir, mais qui doit avoir un avenir dans la sécurité.
Est-ce que ça veut dire que la force de la MONUSCO est impuissante face à ce groupe qui sème la désolation?
Alors, moi, je veux bien entendre les critiques et je veux aussi endosser une part des responsabilités, effectivement, dans le fait qu'on n'ait pas encore obtenu tous les objectifs attendus. Mais le point que je veux vraiment souligner à l'égard de nos auditeurs et aussi des troupes de la MONUSCO et des FARDC qui combattent, c'est que je ne suis pas totalement convaincu que ce n'est pas un fait accompli et que si on continue de bien travailler ensemble, nous allons en venir à bout. Ce genre d'opération, et je peux me référer à ce qu'a dit le ministre de la Défense il y a quelques jours à Beni, ça prend un peu de temps. Ça demande aussi des sacrifices. mais je suis persuadé que nous avons les moyens en continuant ce que nous sommes en train de construire, et nous avons même un devoir, effectivement, d'aller jusqu'au bout de sa neutralisation, parce qu'on ne peut pas vivre avec cette menace à l'est du pays, parce qu'elle est une cause de souffrance pour les populations, une souffrance qui dure très longtemps, mais aussi parce qu'il y a vraiment un risque de développement, comme ça se passe ailleurs en Afrique, d'un mal encore plus profond. Donc il faut vraiment l'éradiquer jusqu'au bout.
Est-ce qu'on peut dire que la MONUSCO a failli à sa mission de protéger les civils?
Alors, moi, je voudrais répondre à votre question en expliquant notre mandat. Parce que je pense que la façon dont le Conseil de sécurité a écrit notre mandat, il s'applique totalement à la situation à Beni. Le Conseil de sécurité nous demande une protection efficace. Il nous demande une protection qui se fait dans un cadre global, c'est-à-dire pas uniquement militaire. Et il nous demande de prévenir, de dissuader ou de stopper la menace. Donc les attaques que l'on sent parfois se développer, parce que les populations nous informent d'un certain nombre de choses, il est important que nos troupes, encore plus qu'aujourd'hui, soient proactives, aillent au combat, comme elles le font à l'heure où nous parlons maintenant, dans cette émission, parce que je sais le développement de nos opérations actuelles, mais surtout qu'elles aillent au contact pour capturer ou neutraliser ces forces négatives. C'est absolument indispensable. Mais je viens d'exprimer ce qui est accessible à tous, c'est-à-dire la lettre de notre mandat. Ce qui compte, c'est son exécution, dans la considération de la sécurité et de l'avenir des populations de la région de Beni.
Et comment vous entrevoyez l'avenir de cette population ou de ces populations?
Bon, ces populations, comme je dis, elles ont potentiellement un avenir formidable, parce que je ne connais peut-être même pas au monde de régions qui offrent tellement d'atouts, de l'agriculture, de différentes ressources, accession aux frontières. Il y a maintenant l'hydroélectricité qui sont des projets qui vont se matérialiser dans les années à venir. Il y a un potentiel humain énorme, et tout ceci a besoin de sécurité pour se développer. Là, je parle en tant que militaire. Bien sûr qu'il y a d'autres domaines qui sont importants, y compris certainement une certaine coopération régionale, parce qu'on est aussi à proximité de frontières. Donc moi, je veux transmettre mon optimisme pour ces populations de l'avenir. Le problème, c'est effectivement d'aller au fond de la neutralisation d'un mal profond, hein, qui s'est enraciné dans la région, qui doit être traité aussi au-delà des frontières. Et ça, c'est une coopération qui est indispensable. Il faut avoir confiance dans le besoin d'une coopération. Mais malheureusement, parce que c'est un groupe qui ne négocie pas, il faut aussi le combattre. Le combattre, ça veut dire aussi le confronter avant qu'il ne continue à développer des attaques contre les populations.
Mais la force de la MONUSCO avec les FARDC, vous avez essayé ça, malheureusement, ça n'a pas marché. Ils sont toujours actifs.
Bien sûr qu'ils sont encore actifs, prenons en compte tout ce qui s'est fait du temps du général Bahouma. Ça, ce sont des sacrifices énormes. Je pense que même, si je peux me permettre, dans l'histoire des forces armées congolaises, l'action du M23, c'est une action absolument admirable. L'action contre l'ADF, c'est également très fort en termes de résultats, mais malheureusement, ça n'amène pas à l'éradication complète. Et je rappelle que là, je parle d'action militaire, alors qu'il faut aussi que d'autres domaines puissent appuyer l'effort et le sacrifice des militaires.
Quel domaine, par exemple ?
Des domaines politiques, des domaines considération bilatérale, hein, avec le pays voisin, la question de lutter contre le recrutement de nouveaux combattants, parce qu'on peut en tuer certains, mais si d'autres, pendant ce temps, font du recrutement, ça les remplace. Il faut aussi lutter contre les financements, et il faut aussi, je pense, lutter contre toute forme passive ou active, on va dire, de soutien à cette organisation. Moi, ce que je ressens, c'est que la population veut de l'action, la population, que l'État est en action pour pouvoir adresser effectivement l'application d'une stratégie globale, et ça, ça va donner encore plus de sens au sacrifice et à l'action absolument nécessaire des militaires sur le terrain. Un dernier mot sur la MONUSCO, parce que la brigade d'intervention est actuellement presque entièrement déployée dans la région. La brigade d'intervention a un mandat offensif. Et à l'heure où nous parlons, et selon les consignes que nous avons données, il est impératif que non seulement il développe ses actions offensives, mais qu'il les fasse avec encore plus d'efficacité, en réponse effectivement à l'obtention des objectifs que nous sommes fixés, qui est le démantèlement de cette organisation et la neutralisation de sa capacité de nuisance contre les populations.
Alors, Général Jean Bayon, on dit que vous avez joué un rôle très déterminant pour la reprise de la coopération entre l'armée et la MONUSCO. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Qu'est-ce qui était à la base de cette brouille entre l'armée et la MONUSCO?
Alors, ce qui est important, c'est d'expliquer à nos auditeurs que la MONUSCO travaille en fonction d'un mandat. Le mandat, en fait, il peut être lu par tout le monde, hein, c'est très, très important. Ce mandat et les résolutions actuelles ou antérieures rappelaient le besoin d'un dialogue stratégique. La neutralisation des groupes armés, la protection des civils ne peut pas se faire de manière isolée par la MONUSCO. C'est un travail de soutien aux autorités locales. Donc ça, c'est très important que la reprise de ce dialogue, c'est une attente politique. Et le rôle que j'ai joué, et je veux rester modeste par rapport à ça, ne vient qu'en appui d'une demande politique et d'un travail politique. Mais ce qui est important pour les populations et pour la mise en œuvre de cette coopération, c'est le résultat sur le terrain. Ce que les gens attendent, ce sont des résultats palpables. Je crois que la question de la sécurité, ce n'est pas un concept. La question de la sécurité, ça doit être une réalité que les gens ressentent sur le terrain. Un mieux-être et surtout la conviction que ce résultat n'est pas que temporaire, mais que demain, on ne va pas encore craindre une nouvelle attaque. Que les gens puissent investir dans l'éducation de leurs enfants, dans la construction d'hôpitaux, dans la possibilité ou pas de revenir dans les marchés. Alors, moi, je me suis concentré sur l'application militaire de cette coopération. Et j'ai voulu donner à nos responsables politiques de la MONUSCO la possibilité de pouvoir dire aux autorités que nous sommes sur le terrain, que nous sommes en action et que nous obtenons des résultats. Alors c'est jamais facile parce que moi je commande pas des troupes de mon pays. Ça c'est la réalité et la légitimité des forces des Nations Unies. Mais ça demande effectivement de la conviction, de montrer l'exemple, mais aussi d'être toujours à l'écoute de nos interlocuteurs congolais parce que c'est d'eux que vient la compréhension de ce que nous devons mieux faire, de ce que nous devons corriger et de ce que nous devons obtenir comme objectif ensemble.
Radio Capi, grand témoin.
Le général Jean Bayon, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, est celui que grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Comment étaient vos relations avec les populations locales?
Alors, avec les populations locales, moi, je dois dire tout d'abord que, avant de parler éventuellement de critiques, que pour moi, qui suis un Français, donc qui ne suis pas un Africain, j'ai été vraiment très touché par l'accueil des populations partout où on va, partout. Et aussi par leur résilience, hein, parce que ces populations, elles sont à la fois accueillantes, mais elles sont courageuses. Des gens me disaient dans tel endroit du Nord Kivu, ça fait des années qu'on connaît la guerre. On les voit se déplacer, être dans la brousse, être sur les routes parce qu'elles sont menacées par des groupes. Et toujours, en fait, je les vois avec une vraie résilience. Il y a aussi de la solidarité, le nombre de gens qui accueillent des déplacés, qui leur permettent effectivement de survivre alors qu'ils sont démunis de tout. C'est absolument incroyable. Et ça doit être souligné. Et vis-à-vis de nous, ils ont toujours réservé le meilleur accueil. Mais mon approche vis-à-vis d'eux, ça a été de confronter la réalité, de les écouter. C'est possible de rencontrer bien sûr les notables, de rencontrer mes interlocuteurs, mais aussi si possible d'avoir accès à d'autres gens. J'étais encore il y a quelques jours à Nyanzale par exemple, j'ai vu ces populations qui s'inquiétaient effectivement d'une menace qui était sur le point de départ, et je l'ai fait en fait partout. J'étais aussi à Eringeti et sur d'autres lieux quelques heures après les massacres. Donc j'ai vu ces familles éplorées devant les corps de leurs enfants, devant les gens lâchement assassinés, et ce sont des choses que nous, responsables, nous devons confronter, parce que c'est ça la réalité de la souffrance des gens, et surtout c'est la façon dont nous devons appréhender la réponse et notre engagement sur le terrain. Donc mon engagement, il a été le plus proche possible des gens, mais aussi je me suis tenu à pouvoir voir un large nombre d'interlocuteurs, de les voir si possible régulièrement, pas autant qu'on le peut, mais j'ai voyagé énormément, souvent en hélicoptère dans le pays, pour pouvoir garder ce contact, être à l'écoute et si possible mieux comprendre comment être plus efficace.
Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que vous devez demander pardon à la population congolaise du fait que vous êtes resté, je parle de la force de la MONUSCO qui est restée impuissante face à tous ces massacres qui se déroulent sous les yeux de la MONUSCO dans l'est de la RDC, impuissante face aux groupes armés qui tuent et massacrent la population congolaise?
Bon, écoutez, moi, la compassion, le partage de la souffrance, je pense que nous l'avons exprimé. Et quand je dirais nous, c'est pas moi seul, c'est que nous l'avons fait avec les autorités de la MONUSCO, nous l'avons fait aussi avec les autorités, côte à côte avec les autorités congolaises. Donc, et ça, c'est quand même très important parce que ce sont des souffrances terrible, et je pense que là, les points ou même les demandes effectivement de pardon que vous exprimez, ce sont des choses que nous entendons, parce que ces souffrances-là sont réelles et très fortes. Mais notre réponse doit être d'abord une réponse d'action. C'est ça l'important. Et moi, je comprends que les populations ne pourraient pas comprendre que notre réponse ne soit pas efficace. Et c'est là que chaque fois qu'il y a une situation qui effectivement peut questionner l'efficacité de la MONUSCO, nous devons faire une introspection, faire effectivement une analyse de ce qui n'a pas fonctionné et revenir à la lettre de l'exécution du mandat de protection des civils que j'avais dit tout à l'heure, qui est de prévenir plutôt que de réagir, hein, et de stopper. Stopper, ça veut dire qu'il faut risquer sa vie pour sauver la vie de gens qui ne sont pas armés. Je veux simplement pour illustrer, après une des dernières attaques à Luna, qui est près de Eringeti au nord Kivu, j'étais là quelques heures après et je suis retourné avec mes troupes. Et en fait, on se rend compte que quelques mètres après les maisons qui ont été attaquées, on est dans la forêt. Et ce qui est important, c'est que nos troupes, elles ne restent pas sur les routes, elles aillent dans la forêt, qu'elles fassent des embuscades, qu'elles soient là pour intercepter ou neutraliser ces tueurs, et non pas uniquement pour patrouiller sur des lieux classiques, on va dire, de patrouille. Ça, c'est très très important. Ça demande vraiment un travail de conviction et d'encouragement permanent. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant mes années ici.
Si on vous demandait de vous auto-évaluer, combien vous donneriez sur 10, le général Jombayo?
Ah, écoutez, c'est une question trop difficile. Bon, j'espère que je ne suis pas en dessous de la moyenne, mais je ne mettrai pas 10 sur 10 parce que, évidemment, je pars avec quelques frustrations sur le plan. Moi, je suis extrêmement attaché aux résultats. Bon, donc on va dire entre aux alentours de 8, j'espère.
8 sur 10. Bon.
Moi, je veux toujours donner aussi un message d'optimiste. Donc, ce qui compte, à la limite, c'est pas moi. Il faut vraiment que ceux qui vont suivre, ceux qui sont actuellement en charge, poursuivent le travail. Je crois que nous avons bien identifié avec nos interlocuteurs congolais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut mieux faire ensemble. Et souvent, vous parlez des populations, les populations nous disent ou disent à leurs autorités politiques qu'est-ce qu'elles attendent. Elles attendent de l'action, elles attendent de la proactivité et non pas de la réactivité. et elle demande vraiment que l'on soit déterminé dans l'obtention des résultats sécuritaires. Donc ça, c'est un message extrêmement clair et j'espère qu'il va être poursuivi.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez n'avoir pas fait pendant votre mandat?
Bon, c'est vrai que ce sont des questions personnelles, mais je veux simplement ajouter, et ça c'est pas du tout une frustration, pendant 3 ans d'être l'adjoint, c'est pas facile. Parce que, mais ça c'est pas du tout une critique, mais c'est sûr que, donc je me suis placé en appui d'un processus, je me suis placé comme le conseiller, mais souvent j'ai été aussi le commandant par intérim, pendant presque un tiers du temps, hein, pendant plus d'un an, donc c'est quand même beaucoup de temps. Et là, j'essaie d'exprimer le maximum ce que je pense être bon de faire. Mais de toute façon, nous travaillons en équipe. Et une fois de plus, ce qui compte, c'est pas notre personne, ce sont les résultats et c'est le fruit d'un travail collectif. Et d'abord, dans la pensée de l'exécution sur le terrain. Alors, ma frustration, bien sûr, elle est liée aux limites dans l'efficacité, en particulier de prévenir un certain nombre de pertes en vie humaine. Ça, bien sûr, c'est extrêmement fort. Mais permettez-moi, même si ce n'est pas directement votre question, de dire que pendant ces 3 ans, nous avons vraiment conduit des opérations offensives. Les opérations contre le M23, ce sont des milliers de vies humaines sauvées, parce que Goma, il n'a fallu que quelques jours pour faire stopper les bombardements. Quelques jours. Nous avons été très robustes dans la réponse. Nous avons sauvé des vies humaines. À Bunagana, le 4 novembre, nous avons aussi fait stopper ces bombardements tirés par le M23 et nous avons permis le désarmement total du M23. Ça, ce sont des choses extrêmement fortes. Et dans d'autres occasions, effectivement, je suis persuadé que nous avons sauvé aussi beaucoup de vies. Et ça, bien sûr, on en parlera beaucoup moins. Mais ça compte, malgré tout, dans notre bilan. Et je veux saluer aussi, j'ai salué le sacrifice des soldats congolais. Mais je veux aussi dire que nos casques bleus, qui parfois sont critiqués, et parfois justement à juste titre, font aussi beaucoup de travail. Et je suis encore venu ce matin même voir nos soldats ghanéens, mais aussi il y a quelques jours nos forces du Guatemala, dont on parle très peu, mais qui font un travail absolument remarquable. Donc je les cite, mais moi je voudrais quand même apporter aussi ma reconnaissance pour nos troupes, hein, qui font un travail souvent difficile, souvent complexe, qui aussi pour certains ont donné leur vie ici pour la paix au Congo. Et sans eux, bien sûr, nous ne serions rien. C'est par le travail de nos militaires sur le terrain ou dans les airs aussi pour nos pilotes qui prennent aussi beaucoup de risques. Hein. Nous nous sommes fait tirer dessus un nombre important de fois, en particulier par les ADF. C'est grâce à leur sacrifice et à leur générosité, effectivement, que nous apportons une contribution efficace.
Général Jean Bayot, 58 ans, vous quittez à MONUSCO aujourd'hui. C'est où votre prochaine destination? Vous restez dans les Nations Unies ou vous rentrez servir dans votre pays?
Alors, moi, je suis bien sûr au service de mon pays, mais je suis aussi disponible effectivement pour d'autres responsabilités aux Nations Unies, mais vous savez que ces disponibilités, s'agissant des Nations Unies, nous n'avons pas de poste qui nous appartienne. Hein. Un militaire est nommé, un militaire fait son temps, comme on dit, hein. Ce sont des contrats de 1 an qui sont renouvelés. Donc bien sûr que je me sens disponible pour d'autres responsabilités. Je me sens également très motivé pour apporter autant que je le puisse une contribution en général sur le développement des capacités ou de la sécurité en Afrique en général, et j'espère que d'autres occasions se présenteront effectivement de pouvoir exprimer cette disponibilité.
Général Jean Bayo, 3 ans vous êtes resté en RDC, je suppose que vous avez sillonné presque toutes les provinces.
Pas toutes, surtout aujourd'hui où il y en a encore un peu plus que quand je suis arrivé, mais oui, j'ai beaucoup sillonné le pays. Franchement, c'est un pays absolument extraordinaire que j'espère beaucoup de gens vont pouvoir connaître. Et
qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement?
Bon, la grandeur du pays, je pense que ayant sillonné de longues heures toutes ces provinces, tous ces endroits, c'est vrai que c'est absolument immense. C'est une nature absolument époustouflante. Hein. Je pense que je suis un de ceux qui ont pu vraiment me déplacer autant. Mais surtout, les paysages, c'est une chose, mais les paysages qui sont touchés par la main de l'homme, c'est-à-dire les terres agricoles, la façon dont les gens travaillent, c'est absolument stupéfiant, et ça montre le travail que font les gens, la beauté des villages, parfois l'architecture. Il y a des choses qui sont vraiment formidables, que j'espère beaucoup de gens pourront visiter en tant que touristes, hein, parce que c'est un pays absolument, absolument merveilleux. Et je pense que beaucoup de pays voisins ont beaucoup envié effectivement de votre beau pays.
Alors vous avez goûté à la cuisine congolaise, Général Jean Bayo?
Oui, je ne suis pas un bon cuisinier, mais j'en ai profité, et je crois que c'est très important. Quand on vient dans un pays, de pouvoir toucher à la vérité, effectivement, donc la langue, la cuisine, la musique. Les Congolais ont beaucoup à apporter, effectivement, à tous leurs visiteurs, et dont j'ai été un de ceux.
Quel est le plat qui vous a beaucoup plu, quoi?
Alors, vous posez une colle, hein, parce que... malheureusement, une de mes faiblesses, c'est que si je pense avoir une bonne mémoire, je suis pas très bon. J'ai essayé d'apprendre le Swahili et ça n'a pas toujours été une grande réussite. Et pour les noms des plats, je suis pas très très bon pour les traiter. Mais moi, mon vœu, c'est de pouvoir retrouver d'autres occasions de les goûter à nouveau, et surtout au Congo, pas en Belgique ou en France, mais au Congo. Ça me semble important.
Parlant de la langue, vous avez essayé d'apprendre un peu de Swahili?
J'avais un professeur qui venait, alors je ne sais pas si, mais ce qui est important quand on rencontre les gens, c'est de pouvoir être bien compris. Je me suis rendu compte que je n'aurais peut-être pas le temps ou peut-être la capacité de pouvoir bien me faire exprimer. Donc nous avions toujours avec nous des interlocuteurs qui sont d'ailleurs des employés des Nations Unies, qui parlent très bien la langue et qui étaient toujours notre traducteur. Hein. Mais je me suis toujours attaché aussi à ce que les gens puissent s'exprimer vis-à-vis de nous dans leur langue. Ça, c'est très important aussi, pour qu'ils puissent être très précis dans leur description de la situation. Si j'étais resté plus de temps, j'aurais vraiment voulu apprendre effectivement une des langues de votre pays, Jambo, etc. Les gens sont tellement, tellement accueillants, et c'est vrai que toutes les salutations sont vraiment très expressives vraiment nous touche beaucoup.
Ouais. Alors, vous avez écouté un peu de musique congolaise?
Je vais peut-être citer deux anecdotes, en fait. La première, c'était en 2013, le Noël à Pinga. En fait, ce jour-là, pour moi, c'est une journée tout à fait particulière, en 2013. Donc, vous vous rendez compte qu'on est un mois après la chute du M23. Donc, nous avons permis l'éviction d'un chef de groupe armé qui s'appelle Cheka de Pinga, et la population est revenue. Et nous avons connu ce jour-là un Noël incroyable, où les gens ont fait des chorales, des chants, de la musique. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils avaient réussi à avoir de l'électricité, mais il y avait un orchestre qui était là et qui faisait de la musique absolument formidable. Et tout le monde était ensemble, toutes les communautés du village, quelle que soit leur origine, se retrouvaient ensemble. Les mamans avaient fait des groupes, effectivement, pour dynamiser la réunion, effectivement, des différentes communautés. C'était formidable. Et au même moment, parce que j'étais commandant par intérim ce jour-là, j'avais donné le matin même l'ordre d'attaquer les ADF qui... avait pris possession d'une partie de la région de Kamango, un peu plus au nord. Donc c'était un moment très fort de réactivité le matin même, et un moment très poignant de réconciliation, on va dire, à Pinga. La deuxième chose, c'est qu'en 2014, quelques mois après, j'ai vu qu'il y avait un concert de Papa Wemba à Goma. Et j'y suis allé parce que je ne voulais pas rater ce moment-là. Et donc j'ai eu malgré tout une expérience de musique congolaise. Mais voilà, ça restera quelque chose que j'aurais beaucoup voulu développer davantage.
Alors, puisque vous parlez de Papa Wemba, on va demander à la technique de nous proposer une chanson de Papa Wemba pour votre plaisir, mais également pour le plaisir de tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Kapi, partout en RDC, et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiokapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Le général Jean Bayo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, est celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Il quitte la mission après 3 ans de service. Général Jean Bayo, vous pensez qu'un jour on arrivera à mettre fin au phénomène des groupes armés en RDC?
Oui. Oui, ma réponse doit être positive. Regardez quand même ce qui s'est passé au cours des années. Et je pense qu'il faut malgré tout regarder les tendances. Le Congo a été occupé par des armées étrangères. Le Congo a été occupé sur beaucoup de territoires par des groupes qui vraiment ne permettaient pas du tout le développement de l'autorité de l'État. Cette chose a quand même beaucoup bougé. Le FDLR, regardons où est-ce qu'on en est maintenant. Le FDLR, je suis persuadé que si nous sommes, si nous faisons ce qui reste à faire, ça sera rapidement fait. Donc, au niveau des groupes étrangers, il y a eu énormément de travail de fait. Et ce travail-là, il doit être complété parce que c'est une question aussi de souveraineté et de sécurité même régionale. Après, il reste les Maïmaï, il reste tous les autres, qui causent aussi beaucoup de mal aux populations. Alors là, ça demande un travail multidimensionnel. Mais franchement, je suis sûr que si on traite les aspects dans toutes leurs dimensions et que l'on utilise bien l'appui de la MONUSCO en soutien des forces et des institutions de l'État, il n'y a aucun groupe qui devrait pouvoir le résister. Mais le problème n'est pas que militaire. C'est ça que les gens doivent bien retenir. C'est aussi un problème à plusieurs dimensions. Mais pour moi, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité et il faut absolument aller au bout de cette problématique.
Alors, lorsque vous dites si l'on utilise bien l'appui de la MONUSCO, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ah, je vais être clair sur ce sujet-là. Et ça, la résolution du Conseil de sécurité exprime à plusieurs paragraphes le travail de soutien, de complément, d'appui que nous devons faire. C'est ça l'esprit. Nous ne sommes pas ici en substitution. Nous sommes dans un pays souverain. Nous avons des capacités qui nous ont été données par le Conseil de sécurité, par les Nations Unies, qui coûtent cher, et qui sont parfois uniques, que les Congolais pour l'instant n'ont pas. Donc il est très important que nous soyons en complément, que nous travaillions en appui et que nous travaillions aussi dans l'exécution d'objectifs qui sont définis ensemble. Quand on travaille dans cet esprit, je peux vous assurer qu'on est extrêmement efficace. C'est pour ça que je suis confiant.
Alors, un dernier mot, à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment partout en RDC, sur la fréquence FM, Général Bayo, vous qui quittez la RDC, après 3 ans en tant que numéro 2 de la composante militaire de la mission de l'ONU en RDC.
Bah, je vais d'abord leur dire merci parce que je me suis senti vraiment accueilli, je me suis senti encouragé, y compris par des critiques, hein, y compris par des mots parfois un peu sévères, je les ai acceptés. Je veux leur dire aussi que un mot malgré tout d'humilité, parce que je vous remercie de votre invitation, mais notre personne en fait ne compte que si on entraîne effectivement un mouvement beaucoup plus large et qu'on est un petit peu le porteur d'une pierre, effectivement, un édifice qui est la construction de votre pays. Et mon dernier message est bien sûr l'espoir et l'encouragement, effectivement, l'encouragement de tout ce qui se fait actuellement. Regardons les choses en face, voyons ce qui se fait bien aussi, voyons ce qui se fait mal de manière à le corriger, continuons à travailler ensemble. Et pensons que l'avenir des Congolais, l'avenir des jeunes populations qui sont à l'école, qui ont besoin de se développer dans un pays sécurisé, c'est ce qui compte et c'est ce qui doit motiver effectivement le travail de tous, hein, donc des Congolais qui nous écoutent, mais aussi de tous les personnels de la MONUSCO, qu'ils soient militaires ou non, qui doivent travailler dans cet esprit, c'est-à-dire de penser au futur effectivement des générations des populations de votre beau pays. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accueillis pendant ces années.
Merci beaucoup Général Jean Bayo et bon dans les nouvelles tâches qui vous attendent. Hein.
Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le général Jean Bayo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, qui quitte la mission après 3 ans de service. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme pour la fréquence de la paix.